France Musique. Musicopolis. La salle Cortot, petit bijou d'acoustique au cœur de Paris. S'il est une petite salle discrète à Paris, c'est bien la salle Cortot. Loin des grandes avenues bien larges où se pavanent les grandes salles et les grands théâtres, celle qui nous intéresse aujourd'hui est nichée dans une petite rue étroite, dans un quartier résidentiel, entre deux hôtels particuliers cossus, néo-renaissance. Certes, sa sobre façade de béton tranche entre ces deux bâtisses de pierre et briques assez ouvragées. Mais justement, elle s'efface et se cache. Et en 1929, l'année de sa construction, elle fait figure de petit bijou moderne. Je vous parle de bijoux modernes pour cette salle Cortot en 1929. Je suis un peu anachronique. Elle ne s'appelle pas encore salle Cortot, mais tout simplement salle de l'École normale de musique. Plutôt que d'un bijou, je devrais plutôt parler d'écrin. Un écrin dans lequel vont se faire entendre de nombreux musiciens, parmi lesquels principalement les élèves et les professeurs de l'école attenante. Ils y joueront la musique de leur temps et surtout le patrimoine musical attendu dans ce genre d'institution. Au piano, dans le trio de Schubert que nous écoutons en ce moment, Alfred Cortot, qui a donné son nom actuel à la salle. Il joue avec ses amis Jacques Thibault au violon et Pablo Casals au violoncelle. Un trio qui se produit depuis 1906 et qui enregistre ce Schubert en 1926. Je voudrais remonter un peu dans le temps pour vous raconter l'histoire de cette salle Cortot. Première étape, 1919. Cette année-là, avec Auguste Mangeot, pianiste et directeur de la revue Le Monde Musical, Alfred Cortot fonde l'École normale de musique. école normale de musique. Les autres écoles seraient-elles anormales ? Non, point du tout. L'idée est de faire référence aux écoles où l'on apprend à enseigner. Selon Lacanal, je cite, « normal » du latin « norma », règle. À l'école normale de musique fondée par Alfred Cortot et Auguste Mangeot, l'idée est donc de former non seulement des musiciens, mais aussi des professeurs de musique. Une idée qui s'est imposée à Alfred Cortot juste après la fin de la Première Guerre mondiale, alors qu'il a lui-même enseigné au Conservatoire de Paris depuis 1907. Alfred Cortot est un homme actif. Infatigable arpenteur de scènes, comme pianiste, chambriste, chef d'orchestre, il est aussi organisateur et entrepreneur. À 25 ans, il monte la première française du Crépuscule des Dieux de Wagner. Il crée une association de concerts, il dirige, il fait des tournées, seul ou avec Thibaut et Casals. Pendant la Première Guerre mondiale, son activité ne ralentit pas. Il fonde plusieurs associations de soutien aux musiciens qui se trouvent au chômage, par suite de la fermeture des salles de concert. Il participe à la direction du théâtre aux armées, qui monte des représentations près du front pour les soldats. Toute cette activité ne passe pas inaperçue. Et en 1917, Cortot devient chef de cabinet du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. À ce titre, il organise des manifestations à l'étranger pour mettre en valeur les musiciens français. Et dès la fin de la guerre, il reprend lui-même ses tournées, dont une avec orchestre aux États-Unis, avec son service de propagande artistique. We'll be right back. Au service de propagande artistique pendant la guerre, Alfred Cortot a travaillé avec Auguste Mangeot, lui-même pianiste et directeur de la revue Le Monde Musical. Ensemble, en 1919, ils décident de fonder l'École Normale de Musique. Dans La Liberté, Gaston Carreau explique qu'il n'est pas question de concurrencer le conservatoire. D'ailleurs, de nombreux professeurs enseignent dans les deux maisons. Cependant, dit-il, le plan d'études et d'organisation si intelligent de l'École Normale la destine particulièrement à combler deux lacunes de la vieille maison. Le conservatoire, école nationale et gratuite, ne peut accueillir d'élèves étrangers qu'en nombre extrêmement limité. Et le conservatoire, filtrant ses élèves en travers d'un système continu d'examens et de concours, forme des virtuoses éclatants, mais n'offre aucun enseignement accommodé aux jeunes gens qui se destinent au professorat.
Chopin a écrit « Grande valse brillante ». Il n'a pas écrit « Grande valse bruyante ». C'est un jeu, là aussi.
Ah oui.
Vous dansez, vous avez dansé la valse? Vous l'avez vu danser?
Oui.
Vous savez comment c'est fait, n'est-ce pas? C'est un mouvement tournoyant. Oui. Tantôt un peu plus amolli, un peu plus alangui, et tantôt un peu plus virevoltant. Mais ça doit toujours rester dans le caractère du rythme, et avec légèreté.
C'est la même chose. Il faut toujours interroger les sources populaires chez Chopin. Elles sont stylisées, elles sont raffinées, mais il y a toujours un élément, je n'irai pas peuple, mais national, ethnique, très fort. Anima, ça veut dire avec âme, avec sentiment.
Si je reprends les deux raisons de la création de l'École Normale de Musique, ce sont donc accueillir davantage d'étrangers et former des enseignants. Mais il y a plus. Reprenons l'article de Gaston Carreau. Je vous rappelle que nous sommes en 1919. Les conservatoires allemands, supérieurement organisés, soutenus par de puissantes finances, habiles à entretenir partout l'opinion qu'ils ne se pouvaient faire d'études musicales sérieuses qu'en Allemagne, draguaient impudemment, pour les diriger sur Berlin, Vienne, Leipzig, Francfort, les élèves du monde entier. Retournés chez eux, ceux-ci y devenaient naturellement autant d'apôtres de la musique allemande, des éditions allemandes, des instruments allemands, autant d'agents bénévoles de l'esprit et du commerce allemand. Il ne faut pas chercher ailleurs la principale cause de la fascination que la musique allemande continuait d'exercer universellement alors même qu'elle était en réalité tombée au second rang. C'est cette clientèle et c'est cet avantage qu'il s'agit de détourner de l'Allemagne sur la France. l'École normale de musique de Paris, les élèves ont besoin d'une salle pour se faire entendre. Et leurs professeurs aussi, qui sont les grands instrumentistes et compositeurs de l'époque. Et puis, Alfred Cortot a bien sûr fondé un orchestre d'élèves qu'il dirige. Il faut le faire entendre, itou. Depuis 1927, l'École normale est installée dans un hôtel particulier du boulevard Malesherbes, 17e arrondissement, au coin de la rue Cardinet. Et jusque-là, les concerts avaient lieu salle des agriculteurs, rue d'Athènes, dans le 9e. Mais ce serait tellement mieux d'avoir une salle dans l'école. Or, les anciennes écuries, qui donnent rue Cardinet, pourraient très bien fournir le terrain. Quoique, un terrain un peu particulier, un rectangle très allongé, de 9 mètres sur 29. Cortot demande un projet à plusieurs architectes sans succès, avant d'accepter celui des frères Perret, qui sont déjà les auteurs du théâtre des Champs-Élysées. La revue L'Art vivant d'août 1929 nous propose une description lyrique de la nouvelle salle des concerts de l'École normale de musique. Je cite. « Nous lisons sur la façade, ainsi qu'en une substantielle préface, l'essentiel de la doctrine qui dirige les frères Perret. Point de surcharge, de superfétation, le squelette du bâtiment doit s'imposer. Lui seul compte. La nature du matériau, le béton, doit être respectée. » Cette façade, quasi nue, de dimensions exiguës, se dresse cependant hautaine à la faveur d'arguments purement architectoniques pour communiquer à l'observateur des sentiments de noblesse et de gloire. L'idée géniale d'Auguste Perret, l'architecte, a été de dessiner la salle. future salle Cortot, non en longueur dans le rectangle de terrain disponible, mais en largeur. En prévoyant sur un des grands côtés une scène ovale, dont la moitié du fond prend sur une petite cour de l'école attenante, ce qui donne une impression d'espace. Et la possibilité d'installer une cinquantaine d'exécutants. On compte 500 places dans cette nouvelle salle, nous dit l'article de L'Art Vivant. L'ossature de béton, brute de décoffrage et patinée en bronze, rythme les surfaces remplies en contreplaqué de bois d'Okoumé. En 4 mois seulement, fut accomplie cette œuvre légère et robuste dont la beauté se recommande uniquement par l'excellence des proportions. Pour l'acoustique de la salle de l'école normale, aujourd'hui appelée salle Cortot, laissons la parole à Marcel Zahar dans L'Art Vivant en août 1929. Cette salle est une caisse vibrante où, tout comme dans un violon, sont ménagées des ouvertures pour la fuite des ondes sonores. Nous l'avons dit, les parois de béton sont tapissées sur la presque totalité de leur surface de feuilles de 4 mm de bois d'Okoumé. Le son s'évade par un jeu de fentes judicieusement ménagé dans les murs et le plafond. Ainsi, les concerts seront donnés dans une vaste cage vibrante qui en respectera l'exécution et mettra en valeur ses caractères. « Vous nous aviez promis un violon, » dit Monsieur Cortot à Auguste Perret après la première audition. « Mais vous ne nous aviez pas dit que ce serait un Stradivarius ?» Le rondo final du trio en si bémol majeur, opus 99 de Franz Schubert, Alfred Cortot au piano, Jacques Thibault au violon, Pablo Casals au violoncelle. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Julien Bourdet pour le mixage, Max Dosolm pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.